Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le premier d'une nouvelle mini-série intitulée « Plastique addict, comment s'en débarrasser ?». Dans ce premier épisode, nous allons parler de plastique recyclé, biosourcé, biodégradable et compostable. Et pour tout savoir de ces plastiques, nous accueillons Raphaël Guastavi, directeur adjoint de la Direction économie circulaire de l'ADEME. Raphaël Guastavi, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Huriez, fondateur de la marque de jeans français 1083, qui a réalisé une gamme en plastique recyclé. Thomas Huriez, bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, Raphaël Guastavi, pouvez-vous nous rappeler ce que représente la production de plastique ?
On a eu, avec toutes ces capacités d'utilisation de matières plastiques dans tout et n'importe quoi, une explosion de leur utilisation. Dans les années 60, on était à 15 millions de tonnes de plastique produits, à plus de 300 millions de tonnes aujourd'hui. En France, on utilise en matière de produits finis transformés en plastique 5 millions de tonnes de plastique, avec une fin de vie qui représente presque 4 millions de tonnes de plastique en fin de vie. Donc c'est quand même des quantités très importantes. Et on en collecte, en vue de leur recyclage, seulement 1,3 million de tonnes. Donc on a quand même encore une grande marge de manœuvre en termes de collecte de plastique en vue de leur recyclage. Et on va, sur ces 1,3 million de tonnes de déchets qui sont collectés pour le recyclage, on va en régénérer seulement 600 000 tonnes. C'est-à-dire que 600 000 tonnes de matière va pouvoir être réincorporée dans des produits. Donc ça, c'est en 2020. On a quand même une augmentation forte depuis 10 ans des collectes de plastique, mais on reste encore à quelque chose qui reste très perfectible. C'est environ 25% de déchets de plastique qui sont collectés en vue d'un recyclage aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se passer complètement du plastique, parce que les plastiques restent intéressants dans notre utilisation au quotidien. Donc il est urgent, par contre, de se poser la question de la bonne utilisation de ces matières plastiques et tout d'abord éviter d'utiliser le plastique quand il n'est pas nécessaire, quand il a un usage court, et plutôt le dédier à des usages qu'il justifie, notamment sa légèreté, donc qui peut notamment être un atout dans certains domaines, comme par exemple le domaine des véhicules de transport. C'est un atout aussi lié à sa durabilité, et donc avoir des objets qui durent longtemps et qui peuvent être résistants grâce à des matériaux plastiques. C'est également de pouvoir avoir une bonne conservation, et là c'est des progrès quand même assez importants en matière notamment de conservation des aliments, ou sur des sujets plutôt médicaux. Ces usages de plastique ont permis quand même en grande partie d'avoir une limitation des maladies nosocomiales et d'avoir des produits de santé qui évitent des surinfections par exemple. Bref, il existe tout un panel d'usages où les matières plastiques ont des avantages qu'on ne peut pas reproduire avec d'autres matières.
On voit de plus en plus de produits en plastique recyclé, biosourcé, biodégradable ou encore compostable. Pouvez-vous nous détailler leurs différences ?
Effectivement, d'abord se rappeler ce que sont les plastiques. Déjà, on parle de plastique au pluriel parce qu'on a différentes résines plastiques qui sont utilisées. Ce sont des matériaux qui sont obtenus avec l'association de polymères synthétiques ou naturels. Et là, on va tout de suite voir qu'effectivement, il y a la notion notamment de plastique biosourcé qui va en découler. Et ces polymères, en général, ils sont modifiés également pour leur donner l'ensemble des spécificités et des critères qu'on souhaite voir dans leur utilisation. Notamment, est-ce qu'on veut des plastiques plutôt rigides, plutôt souples, étirables, transparents ou au contraire opaques et colorés. Donc on va avoir des additifs qui vont être rajoutés à ces polymères et finalement à cette recette chimique qui va permettre de produire le produit souhaité. Donc voilà, on parle donc de plastique au pluriel, et on va voir qu'il y a de grandes familles de plastique qui vont être plus ou moins facilement recyclées, recyclables surtout, et qui vont avoir plus ou moins d'impact environnemental, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pour répondre à la question de la différence entre déjà un plastique recyclé et recyclable. Alors le plastique recyclé, c'est celui qui a déjà fait l'objet d'un cycle de recyclage, donc qui va avoir été collecté en fin de vie. Donc le produit va être collecté en fin de vie, c'est un déchet. Il va être trié, il va être préparé et il va être régénéré pour refaire finalement une matière première de recyclage, donc qui va être remis dans un cycle de production en substitution d'une matière vierge. Donc, c'est-à-dire que ce plastique, il aura eu plusieurs vies dans plusieurs types de produits. Un plastique recyclable, ça va être un plastique dont la composition lui permettra d'être facilement recyclé, donc remis dans une boucle de production après un premier cycle de vie. Et puis après, on va voir les plastiques dits biosourcés. Alors, qu'est-ce que c'est des plastiques biosourcés? Finalement, ça reste des plastiques qui ont quasiment les mêmes spécificités et même compositions chimiques. Seulement, au lieu de les faire à partir de pétrole, donc au lieu d'être pétro-sourcés ou d'autres matières fossiles, on va plutôt aller sur l'utilisation de matières organiques. Notamment ça peut être des résidus de culture, ça peut être de l'amidon issu de résidus de blé, ça peut être issu de canne à sucre. L'idée, c'est d'ailleurs plutôt d'aller sur des résidus et donc des déchets organiques plutôt que sur des cultures dédiées. Et donc, l'utilisation de ces végétaux va permettre chimiquement de reproduire une forme de résine plastique qui reste du plastique dans tous les cas. Alors après, il y a le terme biodégradable, qui est un terme qui aujourd'hui n'est plus censé être utilisé, notamment dans la communication sur les produits, notamment pour éviter de penser qu'un plastique dit biodégradable ne posera pas de problème dans l'environnement. Ces plastiques biodégradables, là aussi, ce sont des plastiques qui ont eu notamment des additifs, qui peuvent être des plastiques biosourcés ou pas, donc qui peuvent être aussi d'origine d'énergie fossile, hein, de pétrole. Et les additifs qui sont mis dans ces plastiques vont finalement permettre d'avoir une dégradation par des micro-organismes du sol, notamment. Et une action entre le soleil, l'ozone, une action vis-à-vis des micro-organismes qui vont permettre de biodégrader le plastique. À terme, il peut du coup être complètement digéré, entre guillemets, et il peut disparaître de l'environnement. Mais à terme, et c'est là que le terme est un peu peut être trompeur, c'est que finalement on va quand même être sur des durées très longues de dégradation dans l'environnement et dans des conditions très particulières. Donc ça c'est le biodégradable et le compostable c'est encore autre chose. Les plastiques compostables, eux, sont censés être compostés par l'action là aussi de micro-organismes dans des conditions industrielles, on va dire, donc très précises en termes de pression, de température, de taux d'humidité. Et effectivement, quand ils sont dans ces conditions de compostage très cadrées, on va avoir là aussi une digestion par les micro-organismes, hein, les bactéries, des champignons microscopiques, qui va permettre d'éliminer quelque part ce matériau plastique compostable et d'avoir une transformation notamment en eau et en dioxyde de carbone. Et là aussi, ces plastiques compostables, ça va être quelque chose qui, en tout cas nous, l'avis de l'ADEME, c'est plutôt d'avoir une utilisation limitée, dans certains cas très précis, parce que là aussi, ces conditions de compostabilité, on va les retrouver dans des conditions très précises et donc certainement pas ou peu dans l'environnement.
Et parmi ces solutions, quelle est la meilleure alternative?
Alors, la meilleure solution alternative, c'est d'abord de réduire l'utilisation de plastique. Ça, c'est clair. Ensuite, d'utiliser des matières recyclées, effectivement, ça, c'est plutôt une bonne idée, parce que surtout si ça vient se substituer à l'utilisation de plastique vierge, ça va permettre de réduire l'impact environnemental du produit dans sa globalité. Donc, réduction de l'impact environnemental, ça veut dire notamment réduction de la quantité d'énergie pour utiliser ces matériaux, et également une réduction liée justement à la non-exploitation d'une énergie fossile pour produire du vierge. Ça, c'est une alternative intéressante, tant qu'on a en tout cas besoin de plastique, et donc ça va être notamment plus intéressant de l'utiliser pour des produits qui vont avoir une durée de vie longue. Ensuite, la question des matériaux biosourcés, ça peut être aussi intéressant, mais sous réserve d'utiliser ces biosourcés dans une approche d'éco-conception. Donc là aussi, ça va être utiliser des matériaux biosourcés, donc des plastiques biosourcés, d'une part en substitution de matières vierges, et d'autre part en utilisant des résidus plutôt de culture, et éviter de faire des cultures dédiées finalement à la production de plastique biosourcé, avec aussi un objectif d'utiliser ce type de matériaux dans des produits qui vont être durables, et éviter de l'utiliser pour, là encore, des produits avec un usage court et une durée de vie courte. Quant au plastique compostable, là on est plus mitigé hein, sur l'utilisation de ce type de matériaux, avec du coup plutôt l'utiliser sur éventuellement des contenants de pré-collecte, notamment des sacs pour faire la collecte de biodéchets. On a une obligation hein, maintenant de faire un tri à la source des biodéchets depuis le début de cette année par les collectivités locales, et avoir des sacs en plastique compostable pour faire la collecte de biodéchets. On se dit que pourquoi pas, parce que dans le pire des cas, s'il reste des fragments de ces sacs dans le processus de compostage industriel, voire de méthanisation, ces résidus de plastique pourront être dégradés dans le processus industriel. Et donc on peut éviter d'avoir des fragments dans les sols après de plastique. Mais voilà, ça reste une utilisation qui nous semble être vraiment très limitée à des cas très spécifiques, et peut-être éviter d'en faire le nouveau type de plastique, parce que de toute façon, le sujet va être plutôt de collecter et de maximiser le recyclage des plastiques en fin de vie, sachant qu'en plus, ces plastiques compostables n'ont pas les mêmes caractéristiques à cause des additifs qui vont être dans ces résines, et du coup pourraient être des perturbateurs même du recyclage s'ils sont mélangés avec des plastiques, on va dire, plus conventionnels. Ces solutions, notamment sur la partie plastique à usage unique, hein, c'est effectivement, il y a des objectifs de réduction forte de ces usages de plastique, quelle que soit leur origine. Hein. Une fois de plus, il ne s'agit pas de remplacer des plastiques pétro-sourcés par des plastiques biosourcés. Il s'agit de s'affranchir complètement de plastique et de diminuer vraiment leur utilisation sur la partie usage unique. Par exemple, la loi économie circulaire de 2020 demande à ce qu'il y ait une diminution par deux de l'usage de bouteilles plastiques jetables. On est sur des dimensions qui sont avant tout de réduire, et puis après, dans un second temps, de substituer par d'autres matières, en veillant à ce que ces solutions de substitution n'aient pas plus d'impact aussi. Donc il y a quand même une dimension performance environnementale sous l'angle de l'éco-conception qui est de bien regarder par quoi on remplace. Après, ça peut être remplacé par d'autres pratiques. On a parlé du vrac, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié au réemploi, la consigne pour réemploi par exemple, qui impose un changement de produit et un changement aussi d'organisation pour se permettre de vraiment de remplacer et de substituer la partie plastique. Sachant qu'après, il y a d'autres questions, hein, qui vont se poser, c'est notamment la dimension sanitaire qu'on peut avoir, notamment avec d'autres matières, des vigilances à avoir sur tous ces points d'impact d'autres matériaux, notamment en termes de poids, en termes de mise en œuvre. En fait, qu'est-ce que ce changement de modèle peut également provoquer? Donc, il faut avoir une vision systématiquement globale avant d'avancer.
Alors, vous nous avez parlé de réglementation en France, notamment pour la réduction des plastiques à usage unique. Qu'en est-il à l'international?
Traité international plastique qui finalement avec une coalition de nombreux pays cherche à diminuer et à répondre à la problématique plastique qui est aussi une problématique environnementale dans le sens où il y a encore beaucoup de pays dans lesquels l'organisation de la gestion des déchets est pas tip-top, ce qui provoque notamment des déchets plastiques dans l'environnement qui vont se retrouver souvent dans les cours d'eau et in fine dans les océans. Ça, c'était un peu le point de départ finalement de cette coalition de pays visant à diminuer la pollution plastique. Donc on espère que le traité international qui en sortira sera assez fort et mettra en avant le besoin de réduire l'utilisation de plastique, le besoin de mieux organiser la gestion des déchets et du coup de diminuer cette dissémination de plastique dans l'environnement.
Thomas Uriez, vous avez développé un jean qui utilise du plastique recyclé et qui est recyclable. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche?
Ce jean très innovant ne repose sur aucune innovation technique ou nouvelle. Déjà, le fait de faire des vêtements en polyester recyclé, ce qu'on a fait dans ce jean, c'est absolument banal, puisque ça fait 30 ou 40 ans que de nombreuses marques de mode font des vêtements en polyester recyclé. J'ai 42 ans, quand j'avais 5, 6, 7 ans et que j'apprenais le ski, et mes parents ils me mettaient sur le dos des polaires en bouteilles de plastique recyclées. Donc la première non-innovation a été de sourcer auprès de filateurs locaux. Alors là, on n'a pas trouvé en France, donc on est allé en Espagne, près de Valence, donc pas très loin de la frontière française, chez un filateur qui s'appelle Antex et qui propose donc un fil en polyester recyclé qui s'appelle le Sequal et dans lequel ils incorporent des déchets de mer. Donc, première innovation, se sourcer auprès d'un filateur conventionnel de cette fibre recyclée. Ensuite, pour qu'on soit le plus facile à recycler, on s'est dit qu'il faut qu'on soit monomatière. Donc on a identifié les composants dont avait besoin notre jean pour être monomatière, du fil à coudre, des étiquettes et des boutons. Et quand on s'intéresse à ces différents fabricants, on s'aperçoit que beaucoup de fabricants de boutons proposent des boutons en polyester recyclé, que le fil à coudre est très majoritairement en polyester aussi, et que les étiquettes, elles aussi, peuvent être faites en polyester recyclé. Donc là aussi, il a suffi d'aller voir nos fournisseurs et de se concentrer sur leur offre en polyester recyclé pour voir qu'en fait, il existait déjà tout ce dont on avait besoin. Et donc, une fois qu'on avait réussi à faire un jean recyclé et recyclable, si on voulait avoir la certitude de le recycler en fin de vie, il fallait qu'on trouve un dispositif pour le récupérer en fin de vie, ce vêtement. Et là encore, on est allé chercher un truc qui existait déjà, qui est encore plus vieux que le polyester recyclé, c'est la consigne qu'on avait dans les cafés avant pour rapporter les vieilles bouteilles ou les vieilles canettes. Et bon, on a juste copié-collé le fonctionnement de la consigne dans la restauration pour faire la même chose dans la mode. C'est-à-dire que ces jeans, on les a lancés à 109 euros plus 20 euros de consigne, de sorte que ce soit vraiment motivant de ramener le jean chez 1083 pour qu'on le recycle. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce projet très innovant, c'est qu'en fait, le seul truc qui nous bloquait, c'était qu'on n'y croyait pas, qu'on n'essayait pas. Techniquement, tout était en place. Et ça vaut aussi pour nos autres projets de recyclage. On s'aperçoit que l'économie circulaire, en fait, elle est vraiment très très proche de nous. Il ne s'agit pas de révolutionner notre manière d'être. Il s'agit juste d'en faire une priorité. Et c'est le seul petit truc en plus qui a permis à notre jean infini d'exister, c'est qu'on voulait vraiment faire ça à l'infini, et en cherchant, on s'est aperçu que tout était à notre portée déjà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez récolté suffisamment de jeans pour pouvoir les recycler?
Alors le polyester est une fibre textile qui est un peu plus résistante que le coton, donc ça fait des jeans qui durent plus longtemps. Donc on n'en a pas récolté énormément. Pour autant, qui bricole avec son jean, qui fait de la peinture, qui tombe en vélo, se retrouve avec un jean qui est plus forcément utilisable. Et donc les retours qu'on a depuis 5 ans que ce jean est commercialisé sont plutôt des retours d'accro que des retours d'usure du temps qui passe. Ça va venir, Mais l'avantage du polyester, c'est que c'est résistant. L'inconvénient, c'est que c'est synthétique et que c'est un déchet qui dure très longtemps dans le temps. C'est exactement pour ça qu'on a souhaité l'emprisonner dans une boucle fermée, technologique, tout autant que commerciale, grâce à la consigne. En fait, la quantité qu'on a lancée correspond à celle des commandes de nos clients, parce qu'on avait fait une campagne de financement participatif, qu'on avait un peu enrichi pour avoir quelques mois d'avance. Et à chaque fois que le stock de tissu baisse, on recommande du polyester recyclé. Ça, c'est pour mettre les produits sur le marché, pour lancer cette boucle d'économie circulaire fermée. On l'amorce avec ce polyester recyclé issu d'Antex et Conti, c'est qu'on teint nous-mêmes. Ensuite, les prochaines vagues de production, dès que la quantité de jeans consignés reçus en retour client sera suffisante, eh bien on va les effilocher pour les refondre et les remélanger dans la même filature en texte et refaire un jean neuf. Mais pour ça, il va falloir du temps parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de volume pour le faire. Et nous, en attendant, ben on stocke ces matières-là avant de les recycler.
Raphaël Guastavi, est-ce qu'on peut recycler le plastique à l'infini?
Alors, à l'infini, c'est toujours compliqué parce que l'infini, sur le recyclage, en fait, il y a quand même des limites. Finalement, à chaque cycle, on a quand même une perte de qualité initiale avec des impuretés qui peuvent être intégrées et de plus en plus concentrées finalement dans la matière recyclée. Donc l'infini c'est un peu compliqué, il faut toujours réintégrer un peu de matière vierge pour avoir une qualité constante. On a des résines qui sont donc plus facilement recyclables que d'autres, mais ça dépend aussi des additifs qui vont être incorporés et là aussi qui peuvent s'accumuler si on a des usages différents. Au sein même d'une entreprise, d'un cycle de production, l'incorporation de chutes, notamment internes, qui n'est pas vraiment un déchet post-consommation, mais qui peut être considéré quand même comme un déchet, peut être incorporé assez facilement. Parce que du coup, on a la connaissance exacte de la composition du plastique qui est utilisé, et la chute de production, finalement, c'est qu'un surplus. Donc là, ça ne pose pas de problème pour justement rester en boucle fermée. Par contre, dès lors qu'on est sur du déchet post-consommation, la grande diversité des additifs et des résines fait qu'on a quand même une difficulté à avoir des cycles reproduits de toute façon longue. C'est pour ça aussi qu'on cherche à avoir un maximum d'éco-conception dans la production pour justement avoir des résines plus standards, utiliser moins de complexité dans les plastiques mis sur le marché. Et surtout avoir quelque chose d'homogène en matière de produits, ce qui facilitera d'autant plus le recyclage derrière, avec une meilleure connaissance finalement de la composition des plastiques, y compris à l'état de déchet.
Et est-ce qu'il y a un risque de compétition sur les matières plastiques recyclées?
Alors la compétition qu'on pourrait voir, c'est notamment en termes d'usage, avec des questions tout simplement économiques, d'équilibre entre offre et demande, entre aussi obligations réglementaires et actions volontaires, qui pourraient venir représenter une forme de compétition sur le gisement de matières recyclées disponibles et à un coût acceptable. Donc on l'a vu notamment dans la période post-Covid, où on avait une reprise économique très forte, avec des besoins en matière assez élevés, le temps un peu aussi de remettre en marche l'industrie, qui a fait monter un peu le prix des matières premières de façon générale, et le prix également des matières recyclées, parce qu'on avait plus de demandes que d'offres. Du coup, cette compétition, elle s'est faite vraiment dans un esprit de marché, et avec les difficultés que ça a pu amener. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente qui représente aussi la fluctuation des prix de marché au niveau mondial, avec des résines de matière vierge qui sont abondantes et peu chères, plutôt bon marché, et qui rend du coup difficile aussi la compétition avec les matières recyclées, qui du coup sont plus chères que ces matières vierges actuellement.
En fait, c'est vrai que sur une matière première très mûre à recycler, comme les bouteilles plastiques, il y a une forte tension parce que du coup, c'est très demandé commercialement. Toutes les marques de boissons veulent montrer à leurs clients qu'elles font leur part contre le réchauffement climatique et que leurs bouteilles sont donc recyclées. Donc, du coup, la demande est supérieure à l'offre. Donc là, ça crée des tensions en termes de matières premières. Dans le textile, malheureusement, on n'en est pas là, parce que bah, quand on voit la surconsommation de textiles dans lesquels on est, bah, on est vraiment, vraiment, vraiment loin de recycler beaucoup des vêtements qu'on met sur le marché. On surconsomme du textile, donc on a une surproduction de déchets textiles, et pour nous, le bon chemin, c'est déjà de consommer moins de textiles. On doit réduire la taille du marché, on consomme trop de vêtements de mauvaise qualité, et donc en plus, le gisement recyclé est de mauvaise qualité aussi, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il y a un enjeu de réduire la quantité de vêtements consommés pour en augmenter la qualité. Et il y a l'enjeu que les vêtements qu'on collecte, une fois qu'ils sont moins nombreux et plus qualitatifs, qu'on continue de développer des technologies qui permettent d'effilocher de manière performante pour pouvoir refiler derrière. Et donc, cette tension qu'on voit vraiment, en effet, dans certaines filières comme la bouteille plastique recyclée, on en est loin, malheureusement, dans le textile, tellement on a des progrès à faire, tant au niveau commercial qu'industriel.
Merci à tous les deux pour votre éclairage. Pour conclure ce premier épisode et permettre à nos auditeurs et auditrices d'approfondir le sujet, auriez-vous des lectures à leur conseiller ?
Ça va être plutôt des recommandations sur les lectures des études qu'on peut produire à l'ADEME. On a notamment sorti une étude qui fait le bilan sur 10 ans de recyclage sur les plastiques, mais aussi sur les métaux ou sur le papier carton, qui s'appelle le bilan national du recyclage, qui a été publié très récemment, il a été publié en mars 2024. Mais également de consulter nos feuilletons, qui sont des feuilletons sur la transition 2050, donc une vision prospective qu'on a mis en œuvre pour regarder comment la société pourrait évoluer selon quatre grands scénarios, de la sobriété jusqu'à une société très technophile et qui fait le pari de pouvoir réparer avec la technologie. Il y a eu notamment des feuilletons qui ont été publiés en mars également sur justement l'empreinte matière et l'empreinte carbone de la France, des lectures plutôt scientifiques, mais qui permettent d'éclairer aussi les débats.
C'est un peu d'auto-promo, mais c'est vraiment dans le thème, donc je vais me permettre d'en parler. Avec trois autres industriels français, on a coécrit un livre qui s'appelle « La perma-industrie » qui vient de sortir chez Erol et qui explique tout ce qu'on a à apprendre de... l'industrie, entre guillemets, de la nature. Si on considère que le produit de la nature, c'est la vie, alors il y a énormément de choses à apprendre de la nature en termes de grands principes qui sont très inspirants pour nos stratégies professionnelles. La nature, elle crée inlassablement autant qu'elle elle s'autorégule. Elle est circulaire autant qu'elle se diversifie. Elle part du terrain autant qu'elle s'interconnecte. Et ça, en fait, quand on met ces lunettes-là sur son nez et qu'on applique ces grands principes de la nature sur le prochain choix qu'on a à faire dans quelques minutes, dans quelques heures, on s'aperçoit qu'on nettoie son projet ou son entreprise de tout ce qui est délétère et tout ce qui n'est pas systémique. Et en fait, ben, faire ça à chaque choix, c'est extrêmement efficace et stimulant parce qu'en fait, on découvre plein de solutions qui étaient sous notre nez et qu'on ne voyait pas jusque-là. Notre jean infini en est le meilleur exemple, puisqu'encore une fois, il est très innovant, avec aucune innovation technologique ou technique derrière. Et ça montre que le principal problème, c'était nous, c'était pas la techno.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitons Science. Un grand merci à nos invités, Raphaël Guastavi et Thomas Uriez. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité Technique de l'ingénieur. Cogitons Science est un podcast produit par Technique de l'ingénieur en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en juin pour un nouvel épisode. À bientôt.